Aujourd'hui, nous voulons rendre hommage au père Jean-Baptiste Etcharin, ancien supérieur général des missions étrangères de Paris. Né le 15 avril 1932 à Iroulégui, décédé le 21 septembre 2021 à Hue, au Vietnam, le père Jean-Baptiste Etcharin a été missionnaire, puis supérieur général de la Société des missions étrangères de Paris, les MEP, de 1998 à 2010. Il était considéré comme le Saint-Paul du Vietnam. Nous vous proposons d'entendre une conférence, une intervention du père Jean-Baptiste Etcharin, enregistrée le 9 mars 2001 à Saint-Jean-Pied-de-Port à l'occasion du pèlerinage en l'honneur de Saint-François-Xavier qui se déroule chaque année à Jacques-Su au mois de mars. Voici donc cette intervention du père Jean-Baptiste Etcharin, enregistrée le 9 mars 2001 à Saint-Jean-Pied-de-Port lors d'une soirée proposée par la paroisse Saint-François-Xavier en Galatie. Le père Jean-Baptiste Etcharin.
Bien, bonsoir à vous tous. Je vous remercie de m'accueillir dans cette belle ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je suis né pas loin d'ici, puisque je suis né à Iroulégui. Mais parti très jeune, je n'ai guère vécu dans le pays, quoique chaque fois que cela m'a été possible, j'ai tenu à revenir, non seulement pour revoir ma famille, mais aussi pour revoir ce beau pays basque. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée par le pèlerinage de Jatsu. Donc, honneur d'abord à Saint François Xavier, c'est lui qui nous réunit. Et c'est lui qui nous permettra ce soir d'aller encore un peu plus loin, parce que c'était un de ces hommes toujours passionnés d'aller plus loin, de découvrir d'autres pays et d'autres peuples. Il nous permettra donc de le quitter rapidement pour aller dans une histoire contemporaine plus récente. Saint François Xavier, je vous rappelle quelques dates. Est né en 1506 et il est mort en 1552, donc à l'âge de 46 ans, dans une petite île en face du port de Canton, en Chine. Il aurait aimé aller donc évangéliser la Chine, mais je pense que sa mort sur cette terre déserte de Sancy a tout de même contribuer à rapprocher un peu nos peuples et aussi à semer quelques semences d'évangile dans cette immense Chine qui aujourd'hui encore nous occupe, nous préoccupe et apparaît un peu comme un centre possible du monde futur. En chinois, la Chine s'appelle Zhonghua, c'est-à-dire le centre du monde. Et depuis toujours, ils l'ont pensé, et il peut arriver qu'un jour cela se réalise. Saint François Xavier, vous savez comment il a démarré. Étant jeune, il est parti à Paris faire des études, et là il a été rejoint par celui qui devait devenir Saint Ignace de Loyola, et fondateur de la Compagnie de Jésus. Les premières années de leur rencontre à Paris, ça n'a pas été tellement chaud entre eux. Ils ne s'aimaient pas tellement. Et petit à petit, Ignace de Loyola a conquis cette âme un peu rebelle de François Xavier. Et à partir du jour où, avec plusieurs compagnons, ils ont fait leur premier vœu à Montmartre, à Paris, à partir de ce jour-là, Xavier a été toujours en communion très, très forte avec Ignace de Loyola, et c'est donc envoyé par Ignace qu'il est parti d'abord dans l'Inde, ce qu'on appelait à ce moment-là les Indes, et après un an et un mois de navigation est arrivé donc en 52, il a fait 11 ans là-bas, 41. Il est arrivé là-bas, à Goa, il a travaillé beaucoup sur l'Inde. À partir de l'Inde, il a navigué beaucoup sur les Moluques, les Moluques dont on parle encore aujourd'hui, où il y a donc malheureusement ces conflits sanglants entre les chrétiens et les musulmans. Il a beaucoup voyagé aussi sur Malacca, sur la côte de Malaisie. Et puis ensuite, il a voulu à tout prix se rendre au Japon, où il a rencontré une civilisation toute différente de celle de l'Inde et qui se développait tout à fait en dehors de toute influence étrangère, en particulier de toute influence portugaise. Alors que durant son séjour en Inde, il a dû tenir compte de cette influence portugaise très forte, d'abord en essayant de s'en servir, de se servir de ce pouvoir, de cette puissance du Portugal pour plus facilement contacter la population indienne avec l'espoir secret que peut-être un jour l'Inde tout entière allait se convertir au christianisme. Mais il a été plus d'une fois déçu, et en particulier déçu par les Portugais eux-mêmes qui ne donnaient pas toujours le bon exemple. Et c'est donc avec un espoir secret de trouver une population mieux adaptée, plus ouverte, qu'il s'était projeté vers le Japon. Là aussi, il a eu des satisfactions, bien sûr, mais aussi quelques déceptions en se rendant compte qu'il n'était pas question de trouver là une seule culture, une seule civilisation et une seule religion, mais une multitude de croyances devant lesquelles il fallait d'abord se mettre à apprendre le béaba, c'est-à-dire apprendre la langue, s'enraciner dans le pays et accepter ce mystère de l'évangile qui nous montre qu'il faut d'abord s'enfouir, il faut d'abord devenir la petite graine qui s'enfuit en terre et qui s'enracine avec peut-être un jour des fruits que nous ne connaîtrons pas, mais qui viendront sans doute. Et puis ensuite, il a eu le rêve de la Chine. Il est parti là-bas, mais il n'a pas pu aborder donc sur le continent parce qu'il y avait déjà des mesures très sévères contre les étrangers. Et c'est là que sur l'île de Sancy, à 46 ans, complètement épuisé, il est mort, qu'il a enfin offert en totalité sa vie de missionnaire. Alors après cela, les pères jésuites, la compagnie des pères jésuites s'est développée très rapidement et ils ont donné une certaine priorité à l'Extrême-Orient avec en particulier le Japon et la Chine. Ils ont beaucoup investi pour le Japon et un certain nombre de jésuites sont donc arrivés. Et seulement, il y a eu très rapidement, là aussi, un rejet, une espèce de crainte des autorités qu'une nouvelle religion apportant aussi une nouvelle morale sociale, cela puisse remettre en question l'autorité qui s'était établie dans un courant un peu confucianiste et shintoïste du Japon. Alors, il y a eu donc, un peu plus tard, vers 1610, une réaction très forte, une persécution ouverte. Tous les étrangers ont dû s'en aller. Ceux qui étaient restés ont été exécutés et les chrétiens japonais eux-mêmes ont été pourchassés. Et pour deux siècles complets, le Japon s'est totalement fermé. Il a fallu attendre deux siècles après pour redécouvrir dans cette île de Nagasaki quelques chrétiens qui étaient encore, malgré tout, 200 ans après, demeurés chrétiens et qui avaient transmis leur foi à leurs enfants. Et lorsque les pères jésuites ont été donc expulsés ou massacrés, je ne peux pas dire qu'ils étaient au chômage, mais quand même, disons, le centre d'intérêt qui avait été l'essentiel, le principal pour eux, le Japon, les avait donc repoussés et quelques-uns parmi eux sont partis donc sur les côtes du Vietnam et du Cambodge, en particulier pour y retrouver quelques familles japonaises chrétiennes qui s'y étaient réfugiées. Et c'est ainsi donc qu'ils ont développé quelques communautés chrétiennes au Vietnam avec une formation systématique des laïcs, en particulier des catéchistes, formant donc des communautés chrétiennes déjà un peu consistantes. Et parmi eux, il y a eu un missionnaire assez célèbre, le père Alexandre de Rhodes, qui était originaire d'Avignon et qui a fait beaucoup pour la culture vietnamienne, en particulier pour la transcription des caractères vietnamiens en caractères latins. Et cette transcription qui depuis a évolué et demeuré et demeure encore aujourd'hui l'écriture de tout le peuple vietnamien. Mais ils se sont aperçus, là comme ailleurs, d'une réalité, c'est que la présence étrangère est toujours quelque chose de fragile et d'aléatoire. Il faut donc créer une structure du pays pour que les chrétiens, les communautés chrétiennes aient un fondement assez solide. Et pour cela, il faut former des prêtres du pays. Et Alexandre de Rhodes, dont le catéchiste avait été décapité sous ses yeux en 1645, a été envoyé par ses compagnons à Rome pour dire cela, pour dire il faut absolument nous envoyer des vicaires apostoliques, c'est-à-dire des évêques, mais directement mandatés par Rome pour enseigner, former des prêtres et ordonner des prêtres du pays. Et c'est ainsi donc, à la suite de cet appel, je passe sur le détail parce que sinon ce serait très très long, il y a eu des volontaires qui se sont manifestés en France. Alexandre de Rhodes avait essayé d'en trouver en Italie, il a essayé aussi dans le sud de la France, il est remonté d'Avignon sur Lyon et de Lyon à Paris, mais à Lyon déjà, tout à l'heure quelqu'un m'en a parlé, il avait rencontré des communautés, des petites communautés, des assemblées de prêtres, de religieux et de laïcs qui déjà se réunissaient pour partager leur foi, pour réfléchir et pour prier ensemble. Et lorsqu'il est arrivé à Paris, il a retrouvé alors là les mêmes assemblées qu'on appelait soit les compagnons, la compagnie du Saint-Sacrement, soit les bons amis, soit ce qu'on appelle aussi les amis, les assemblées des amis, les AA. Tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé de cela. Et c'est là-dedans donc qu'on a trouvé les premiers volontaires. Parmi eux, il y en a un, parce que les lenteurs romaines existaient déjà à ce moment-là, et que tout cela a duré un peu longtemps. L'un d'eux, qui était un des premiers volontaires, Laval de Montmorency, a été envoyé, lui, au Canada. Et il est devenu le premier évêque de Québec. Et l'année dernière, quand je suis allé à Québec, j'ai eu la joie, pas la surprise, parce que je le savais, de retrouver sur le portail du séminaire et de l'évêché de Québec les deux lettres ME, Missions étrangères, comme Mission étrangère de Paris. Bon, nous avons depuis lors gardé de très, très bonnes relations avec Québec. Et Québec lui-même a fourni plus tard une société missionnaire qui s'appelle les prêtres missionnaires de Québec. Alors donc, les volontaires qui se sont présentés, il y avait parmi eux des prêtres et il y avait des laïcs. Il faut souligner, je crois, ce rôle des laïcs. Les laïcs qui, à l'autre bout, attendaient des prêtres et les laïcs qui, ici, avaient envie aussi d'aller en mission au lointain. Il y a eu aussi l'Assemblée du clergé de France qui était partie prenante de cette opération missionnaire à l'étranger. Je crois que c'est bon de le souligner car c'est la Société des missions étrangères de Paris a été quand même une manifestation de l'esprit missionnaire de l'Église de France. Ça n'a pas été une société créée par un fondateur charismatique, mais sur une demande précise émanant d'Asie, des gens ont répondu et l'Église de France, par l'Assemblée du clergé, était elle aussi partie prenante. Les premiers évêques, il y en a eu trois évêques qui ont été choisis parmi ces jeunes qui étaient volontaires. Tous étaient encore bien jeunes. Il y a eu donc Monseigneur Palu, qui est considéré comme un des fondateurs, qui était chanoine de Tours, quoique jeune. Vous savez que de ce temps-là, il y avait ainsi des chanoines, et puis il y avait aussi des bénéfices. Hein. Donc il touchait une espèce de salaire. Alors le chanoine de Tours, François Palu, qui avait 31 ou 32 ans, il y a eu un noble aussi de Rouen, qui s'appelait Lambert de la Motte, qui était directeur des hôpitaux de Rouen, mais qui était également jeune, qui avait 31 ans. Et puis un troisième à qui on a presque imposé la consécration épiscopale, qui s'appelait Cotolendi, et qui était, il avait à peine 29 ans. Malheureusement, ce Cotolendi n'a pas tenu le coup, il est mort en cours de route. Il faut dire que les voyages de ce temps-là étaient extrêmement durs, et parmi les 17 premiers qui ont quitté la France pour aller en Asie, 8 sont morts en cours de route. Et ceux qui sont arrivés, ils sont arrivés en Thaïlande, au Siam. Hein. Donc voilà comment la Société des Missions étrangères a démarré, et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, cette société est une société de prêtres séculiers, c'est-à-dire des prêtres comme les prêtres diocésains que vous avez parmi vous et qui sont à votre service. Et nous sommes aussi des prêtres séculiers, c'est-à-dire nous ne sommes pas religieux, et la société nous met à la disposition des évêques dans les pays dans lesquels nous sommes envoyés. Alors depuis le XVIIe siècle, bien entendu, les choses ont évolué, heureusement. Dans tous ces pays-là, des évêques du pays, des prêtres du pays, des laïcs ont pris en charge, ont assumé la charge pastorale et missionnaire de leur propre pays. Et on peut dire aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de ces pays participent à la mission universelle, c'est-à-dire envoient des missionnaires en dehors de leur pays. C'est le cas pour des pays comme l'Inde, comme le Vietnam, comme la Corée, et même dans des pays extrêmement, où les catholiques sont extrêmement, infiniment minoritaires, comme la Thaïlande, il y a aussi une petite société missionnaire qui se met en route et qui va envoyer quelques-uns de ses membres à l'extérieur. Donc c'est là vraiment le grand jeu, si on peut dire, de la mission universelle, où les missionnaires ne vont pas dans un seul sens, c'est-à-dire les pays riches qui iraient vers les pays pauvres, mais aussi dans tous les sens, dans un échange qui manifeste la vraie notion de la mission, de l'échange. Alors actuellement, notre société a diminué en nombre. Les tâches que nous avons, évidemment, sont très différentes aussi de celles que nous avions au départ, puisque au départ, pour quelques pelés, si on peut dire, on leur donnait d'immenses territoires à travers la Chine ou dans d'autres pays. Aujourd'hui, nous sommes à environ 350. Je vous donne les chiffres ronds, c'est plus facile à retenir. 350 prêtres, donc membres de cette société des missions étrangères de Paris. Il y a l'effet du vieillissement qui fait que environ 150 d'entre eux sont actuellement en France, soit prenant une retraite dans des maisons de retraite, ou encore qui essayent de rendre quelques services dans les paroisses de France autant qu'ils peuvent le faire. Les 200 confrères qui sont encore en Asie, mais il faut ajouter maintenant, depuis quelques années, une participation de la société à la mission à Madagascar et à l'île Maurice, donc l'océan Indien. Mais la grosse majorité se trouve en Asie. Le plus grand nombre d'entre eux se trouve au Japon. Et puis, nous avons un groupe d'une vingtaine à Taïwan, à peu près autant en Corée du Sud. Ils sont une dizaine à Hong Kong. Trois d'entre eux, mais ceci ne doit pas être publié, se trouvent en Chine, à l'intérieur même de la Grande Chine. Des confrères se trouvent, une trentaine se trouvent en Thaïlande. Je viens justement de faire la visite de ces confrères en Thaïlande pendant tout le mois de février, ce qui m'a permis de faire un saut jusqu'au Laos, avec beaucoup de plaisir. Il y a donc aussi encore quelques missionnaires qui sont en Malaisie, à Singapour, en Inde, en Indonésie, et donc quelques-uns à Madagascar et à l'île Maurice. Voilà donc la part que notre société essaye toujours de prendre à cette mission en Asie et à l'Église universelle. Et nous avons depuis quelques années quelques jeunes Français qui de nouveau manifestent le désir de vivre cette vocation missionnaire en Asie. Cette année, nous aurons deux jeunes prêtres qui seront ordonnés. Tous les deux sont actuellement au séminaire des Carmes à Paris. Et nous aurons aussi comme associé un prêtre du diocèse de Créteil, car nous avons maintenant un système d'association qui permet à des prêtres qui voudraient partir dans ces pays-là avec nous pour un temps limité, c'est-à-dire des contrats. Il faut un contrat au moins de 6 ans, parce que ce n'est pas la peine d'aller en Asie pour 3 ans. Il faut déjà au moins 2 ans pour apprendre une langue. Et encore, au bout de 2 ans, on est baragouine. Hein. Alors, ces jeunes sont répartis donc, dans plusieurs pays. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que par rapport aux pays auxquels nous ne pouvons plus envoyer et dont nous avons été expulsés, que ce soit la Birmanie, que ce soit le Laos, le Vietnam, nous sommes toujours en relation. Et des relations très continues et très fortes. Hein. Donc nous n'avons pas du tout l'intention d'abandonner ces pays-là, mais c'est sous une autre forme que s'exerce notre mission dans ces pays. En Birmanie, nous allons plusieurs fois par an, des confrères s'y rendent. Nous avons actuellement 6 prêtres birmans qui sont en France pour faire des études. Il en est de même pour le Vietnam. Nous avons actuellement 50 de prêtres vietnamiens que nous recevons en France pour les études. Pour la Chine, nous avons aussi quelques prêtres et quelques séminaristes, mais avec difficulté, car ce n'est pas facile d'avoir des autorisations de sortie de la Chine. Ceux qui font partie de l'Église dite officielle obtiennent difficilement les autorisations, et ceux des communautés clandestines, alors, ne peuvent sortir que comme étudiants. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas déclarer qu'ils sont séminaristes ou prêtres. Ils demandent des autorisations pour aller faire des études à l'étranger. C'est là donc aussi une des activités de notre société actuellement, c'est d'accueillir en France des prêtres asiatiques venant faire des études supérieures en France. Nous avons actuellement plus de 100 prêtres qui sont là, les uns à Paris, les autres à Toulouse, et dont nous finançons le séjour ici en France. Il y a donc parmi eux des Chinois, des Birmans, des Vietnamiens, des Indiens et des Coréens. Et aussi quelquefois des Indonésiens. Il y a actuellement également des Thaïlandais et un Japonais de Nagasaki. Une autre activité, une des priorités que nous nous donnons dans la société, c'est aussi d'informer sur la vie des églises en Asie. C'est pour cela que nous avons créé une agence de nouvelles. Vous avez ici quelques exemplaires que le Père Garade met à votre disposition. Cette agence de nouvelles sort donc ce bulletin 2 fois par mois, tous les 15 jours, hein, donnant des nouvelles brèves, mais des nouvelles suivies de tout ce qui se passe dans ces pays d'Asie et du contexte dans lequel vivent ces églises en Asie. Contexte politique, social, économique, etc. Et tout ceci va apparaître à partir du 15 avril sur un site internet. Il y a donc un site internet qui est déjà en fonction, qui s'appelle MEP Asie. Et là-dedans, il y aura des sites secondaires comme Eglasie, c'est-à-dire Église d'Asie. Et il y aura également les archives des missions étrangères qui représentent également une richesse assez extraordinaire puisque nous avons des archives depuis le milieu du XVIIe siècle. Nous participons aussi, dans la mesure du possible, à ce qu'on appelle l'animation missionnaire, la coopération missionnaire ici en France. Voilà donc un certain nombre d'activités de la société aujourd'hui.
Vous venez d'entendre une intervention du père Jean-Baptiste Etcharin, ancien supérieur général des missions étrangères de Paris, intervention enregistrée le 9 mars 2001 à Saint-Jean-Pied-de-Port lors d'une soirée proposée par la paroisse Saint-François-Xavier en Galatie à l'occasion du pèlerinage annuel à Jacçu en l'honneur de Saint François-Xavier. Le père Jean-Baptiste Etcharin, originaire d'Iroulégui, est décédé le 21 septembre 2021 à Hue, au Vietnam. Il a été supérieur général de la Société des Missions étrangères de Paris de 1998 à 2010.